Dutrisac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
Dutrisac.
Patrick Derry est avec nous pour nous donner que de bonnes nouvelles. Patrick, bonjour.
Absolument, c'est une garantie.
Ou non.
Non, tout à fait. On va essayer.
Alors, le nombre de cas, commençons avec ça, le bilan COVID du jour.
Oui, ça c'est quand même relativement une bonne nouvelle. 1934 cas de plus. Il n'y a pas longtemps, ça aurait été considéré comme une catastrophe, mais comme la semaine passée, ça oscillait autour de 2500 cas chaque jour. C'est quand même une bonne nouvelle, d'autant plus qu'hier, on était aussi sous la barre des 2000. Donc, on parlait de plateau possible la semaine passée, puis hier encore, ça semble se confirmer. C'est peut-être une décroissance. Il y a un plafonnement, puis une tendance à la baisse un petit peu partout au Québec, mais le gros de la baisse vient de Montréal. On était autour de 1000 cas. Il y a quelques jours, on est à 571 nouveaux cas aujourd'hui.
Ah oui.
Faut remonter. Oui. Faut remonter au 16 décembre pour trouver un nombre de cas aussi bas à Montréal. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Laval, par contre, est encore élevé, 268 cas pour le quart de la population de Montréal. Du côté des décès, 45 décès, au total 8782, ça veut dire qu'on va vraisemblablement dépasser les 9000 morts au cours de la prochaine semaine. Là où ça va encore moins bien, c'est les hospitalisations. On avait un bond hier qui était assez important, autour d'une cinquantaine. Aujourd'hui, on a 61 hospitalisations de plus pour au total de 1497, fait qu'on frôle les 1500 hospitalisations. En soins intensifs, ça montait encore de 10, au total 221. Donc, on est pratiquement au même niveau qu'au sommet du printemps, là, quand on avoisinait les 225-230 hospitalisations en soins intensifs. Le vaccin, 7058 doses de vaccins données hier, total tout juste en bas de 100 000. Donc, ça, c'est intéressant de revenir rapidement là-dessus, parce que M. Dubé en parlait hier dans son point de presse. La moitié des gens dans les CHSLD ont été vaccinés. On vise les trois quarts, parce qu'on suppose que le quart vont refuser d'être vaccinés. Le quart des travailleurs dans le réseau de la santé ont aussi reçu une première dose. Là, il y a la question de la stratégie, à savoir si on donne une dose puis on attend, ou deux doses selon le protocole de 21 à 28 jours établi par Pfizer. Ça va dépendre de la réaction de Pfizer. Si jamais Pfizer, ça fait pas son affaire, il pourrait avoir un risque de rompre l'approvisionnement. Fait qu'il y a une possibilité que Québec révise ça, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. Aussi, l'autre chose qui a été mentionnée, qui est intéressante, c'est que là, on est rendu à peu près au bout des vaccins. C'est-à-dire que les doses qui ont été livrées à Québec sont soit toutes administrées ou sont en train de transiter vers les lieux où vont être administrées, parce qu'évidemment, le Québec, c'est grand. Québec doit recevoir 80 000 vaccins aujourd'hui ou demain. Si les livraisons sont retardées, on pourrait en manquer.
Mais même avec 80 000, là, on n'arrive même pas à 200 000 Québécois vaccinés, là, une première dose. C'est pas. J'ai parlé à un médecin là qui travaille au CHUM. Il n'est pas vacciné, puis il travaille auprès des malades atteints de la COVID. Voyons donc. Et pourtant, au CUSUM, ils sont vaccinés. J'ai parlé à un autre médecin, lui, il venait d'être vacciné avant-hier. Et ce matin, là, rien. Il n'y en a pas au CHUM.
Dans le réseau de la santé, il y a autour de 300 000 travailleurs. Ils travaillent pas tous auprès de malades qui sont contagieux, mais tu mets autour de 70 000 infirmières là, comme ordre de grandeur. Le nombre de préposés, c'est à peu près semblable de mémoire. Tu as autour de 21 000 médecins. Encore là, ils sont pas tous dans les hôpitaux, mais c'est juste pour donner un aperçu. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup de gens vaccinés. Puis si on vaccine autour de 10 000 personnes par jour, ben avant de se rendre à 8 millions de personnes, ça va prendre plus que 2 ans. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça augmente. Mais ceci dit, le calendrier de livraison était fait comme ça, moins de doses au début, les quantités qui allaient en augmentant. Aujourd'hui, dans son point de presse, M. Trudeau a dit qu'on aurait suffisamment de vaccins pour avoir vacciné 20 millions de personnes d'ici juin. Ça va rester à voir. Un autre aussi dans le point de presse, c'est intéressant à mentionner parce que la frontière entre le Canada et les États-Unis va rester fermée jusqu'au 21 février, sauf pour les déplacements essentiels.
Oui.
Deux autres nouvelles d'Ottawa.
Est-ce qu'on peut revoir la définition de déplacement essentiel? Parce que je pense que Marc Garneau a pas compris ce que voulait dire le mot essentiel. Il va être remplacé, là?
Oui. c'est pas lié à ça, ceci dit. Là, c'est parce qu'il y a un départ à l'innovation qui entraîne un jeu de chaise musicale. Mais effectivement, la définition de déplacement essentiel, disons, qui est un petit peu plus lousse selon les personnes.
Lousse, tu dis? Oui, mettons, ouais, assez. Et là, pendant ce temps-là, les hôpitaux, ça déborde. Là, c'est pas le temps d'être malade.
Non, c'est ça. Ben écoute, c'est ce que beaucoup de gens considéraient comme inévitable bien avant Noël et malheureusement en train d'arriver. On a eu l'entrée en scène hier d'un nouveau personnage, la docteure Lucie Opaterny, qui est sous-ministre adjointe à la santé, qui est en gros responsable des hôpitaux. Donc, on a atteint le maximum de délestage dans les hôpitaux du Québec présentement, ce qui signifie qu'il y a des centaines de chirurgies qui sont annulées chaque semaine. En fait, en quelques semaines seulement, on a augmenté le nombre de chirurgies en attente et passé de 130 000 à 140 000. La docteure Opaterny hier a dit que le rattrapage pourrait prendre des années. Et c'est pas nécessairement fini parce que si le nombre d'hospitalisations continue de monter, on pourrait devoir reporter des chirurgies qui sont plus urgentes que présentement, par exemple des greffes de reins. Et ben, si le gouvernement en parle et fait une annonce pour ça, c'est qu'on se doute probablement que ça va arriver.
Ouais.
Avec ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. 140 000 chirurgies non urgentes en attente, dont 12 000 en attente de plus d'un an. Puis tu sais, quand on dit non urgent, là, c'est pas genre un ongle incarné, là. Tu sais, ça peut vouloir dire remplacer une hanche qui t'empêche de marcher, rapporter une chirurgie qui pourrait découvrir un cancer ou même une chirurgie cardiaque. Il y a des cas qui sont rapportés de patients en attente de chirurgie cardiaque qui peuvent pas se faire opérer présentement parce que c'est pas une question de vie ou de mort. Donc, on retarde.
Par contre?
Par contre,
ça c'est aberrant.
Vous êtes une meurtrière trans qui doit subir une réassignation sexuelle, là on va vous opérer.
Et ça prend avec une dizaine d'agents du SWAT. Et c'est aussi, je vais en parler tantôt avec Pierre-Hugues Boisvenu, qui doit être en dehors de sa tête là-dedans. Là. Mais c'est aussi la clinique qui prend cet argent-là. Là. À un moment où c'est la pandémie, c'est comme le serment d'Hippocrate qui est tombé à l'eau. Là. C'est-à-dire, on prend le cash, on est des médecins, mais on va pas s'occuper du bien commun, on va pas s'occuper des gens dans le public. On veut juste faire plus de cash, en plus payer par des contribuables pour une réassignation sexuelle. Chris.
Oui, le cas de la réaffectation sexuelle, il n'y a aucune excuse. Puis c'est, il faut dire, les prisons, c'est séparé, c'est le fédéral qui s'en occupe. Donc, ce n'est pas une décision du gouvernement provincial.
Ouais.
Moi, j'apporterais une nuance, ceci dit, pour ce qui est de la participation des cliniques privées, parce que, par exemple, au 10-30 présentement, il y a une entente depuis quelques années où des gens se font opérer, c'est une clinique privée, un établissement privé, mais c'est du financement public.
Ben oui, parce que c'est payant pour eux autres. Parce que c'est payant pour eux autres.
Oui.
Mais comme ça, comme implication sociale, là, en pleine pandémie, ils continuent à prendre le chèque. La mission reste la même. Faire du cash, faire des profits.
Oui, écoute, on pourrait avoir toute une chronique là-dessus, mais moi, je te dirais juste qu'en Europe, le financement suit le patient, puis il y a des cliniques, des hôpitaux privés un peu partout, dans le chapeau d'une couverture universelle. Puis souvent, ça coûte, pour l'État, ça coûte moins cher opérer là, et les résultats sont moins bons. On le voit d'ailleurs ici.
J'ai pas de trouble avec ça, mais qu'ils le fassent en pleine pandémie aussi, qu'ils s'occupent d'autres choses.
Oui.
Tu sais, c'est ça l'affaire, là.
Non, mais faut que le patient puisse aller partout, faut que l'accès soit ouvert partout. Ça, je suis d'accord avec toi. Là.
Ouais.
Ça, c'est certain. Bref.
Alors, Patrick, il y a définition de voyage essentiel et de risque calculé. Là, ça, c'est les deux définitions dont on a besoin aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Une déclaration importante du premier ministre hier qui a dit que la réouverture des écoles était un risque calculé que lui, il assumait. Ça, c'est ses mots. Et c'est intéressant parce que moi, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est ça serait intéressant de connaître le calcul du premier ministre. Par exemple, combien de morts sont acceptables pour garder les écoles ouvertes? Parce que des cas mènent à des morts toujours. T'sais, Dr. Arruda avait déjà dit qu'il était prêt à accepter un certain nombre de cas pour garder les écoles ouvertes. Quand on a 40-50 cas, à l'autre bout, un mois plus tard, on a environ un décès. Puis, juste un rappel d'une chronologie, puis comment qu'on a changé notre perception par rapport à l'évolution de la pandémie. Quand on était à 500 cas par jour, là, fin septembre, là, à peu près, là, on disait qu'il fallait pas se rendre à 1000 cas par jour. Quand on a atteint 1000 cas par jour, là, on disait que c'était intenable. On a eu un long plateau autour de 1000 cas pendant un certain temps. Là, on dit que c'est intenable, sinon les hôpitaux allaient déborder. Quand on a atteint 1200 cas, on a décidé d'annoncer des parties de Noël pour 4 jours de suite. Après ça, c'est monté à 1500 cas. Là, on a décidé d'envoyer les enfants à la maison un peu plus tôt que de prendre une pause aux fêtes, parce qu'on dit c'est trop élevé. Mais quand on a monté à 2500 cas, donc 1000 de plus, là, on a décidé de rouvrir les écoles.
C'est vrai pareil. La chronologie est bonne.
Les poteaux qui bougent, là, c'est exactement ça. C'est absolument fascinant. Puis je dis pas que c'est facile présentement. Là, j'aimerais pas ça être un décideur public et d'avoir à jongler avec tout ça. Mais malgré tout, là, il y a une chose qui semble évidente, c'est qu'on a décidé d'ouvrir les écoles, de garder ouvertes quoi qu'il arrive. Peut-être qu'il y aurait un coût ou une cible. Il n'y a pas de cible chiffrée, précise, un seuil au-delà duquel on dit, ben là, écoute, il faut absolument que ça arrête, ça bouge tout le temps.
Est-ce que réflexion, Patrick, là, tu m'amènes, est-ce que le couvre-feu va compenser pour la rouverture des écoles? Est-ce qu'il y a une équation qui a été faite à la santé publique?
Ben non, le docteur Arruda le dit qu'il n'y avait pas d'études qui confirmaient que les couvre-feux étaient une mesure efficace. En fait, le résultat de la France tend à dire que ça peut avoir un effet, mais sauf que c'est arrivé en même temps que plusieurs autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un impact psychologique qui va peut-être aider, puis ça va faciliter la surveillance par les policiers, mais il n'y a pas d'équation mathématique stricte.
Okay. Le temps file, Patrick, puis je viens de voir ton sujet des tests rapides. Je viens de tomber en bas de ma chaise sans faire de bruit.
Oui, mais je l'ai mis là pour te faire plaisir, pour te mettre de bonne humeur, parce que hier, tu avais fait une belle montée de lait par rapport à ça. Hier, on parlait de 1,3 million de tests rapides qui dormaient dans un entrepôt, alors que le traçage représente toujours un défi, puis on sait qu'un test rapide, tu testes 30 personnes, tout de suite, tu as le résultat, tu le sais, tu connais tout le monde, t'as pas besoin de voir qui était contaminé autour. Aujourd'hui, on apprend qu'un autre 1,1 million de tests rapides s'en vient au Québec. Donc, on va avoir dans un entrepôt 2,4 millions de tests rapides. Et hier, le ministre Dubé et Dr Arruda ont dit qu'on n'avait absolument pas besoin de ça.
Alors, qui a passé ces commandes-là?
Ça vient du fédéral. Donc, voilà, le fédéral envoie ça aux provinces et on décide de ne pas les utiliser.
Fait que les provinces veulent pas l'utiliser, même si on rouvre les écoles, je pense que ça aurait pu être utile là. Et le fédéral envoie des produits dont on veut pas. Hey, ils se parlent, hein? C'est la belle communication.
Ça fonctionne super bien entre Québec et Ottawa. Est-ce qu'on a le temps pour les contrevenants préférés au couvre-feu?
Vas-y.
OK, écoute, et puis je veux dire que je respecte le couvre-feu et j'encourage pas à le défier, mais c'est quand même amusant de voir ce que certaines personnes sont prêtes à faire. Tu as un cas du couple avec la femme qui promène son conjoint en laisse.
Ouais.
Ensuite, la médaille de bronze, la médaille d'argent à Thetford Mines, le gars qui promène son chien, mais en auto. Évidemment, ça marche pas. Et la médaille d'or, c'est le gars qui est sous, au volant, en pneu d'été, en plein hiver, après 20 heures. Fait que lui, c'est notre champion de la journée.
C'est bon. On va lui envoyer une plaque pour le féliciter pour ses efforts. Bon, il nous reste une minute. Si tu peux nous faire la langue du gouvernement fédéral en une minute, Patrick, ça serait apprécié.
Absolument. Écoute, on va changer de sujet de la COVID, ça va faire du bien. Il y a un sondage auprès de 11 000 fonctionnaires fédéraux qui travaillent dans des milieux bilingues, donc au Nouveau-Brunswick, en Ontario et à Gatineau, là, on sait qu'en Ontario, là, il y a environ 1 million de francophones, fait qu'il y a beaucoup d'endroits où ça parle français. 44% des fondctionnaires francophones sondés ne se sentent pas à l'aise de s'exprimer en français à leur travail parce qu'ils sentent qu'ils seront pas compris, que leurs collègues anglophones sont pas à l'aise. Et presque 40% des anglophones, eux, de leur côté, se sentent pas à l'aise parce qu'ils disent qu'ils manquent de pratique et ils sentent pas qu'on va être compris. Donc, c'est comme ressortir un rapport d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 8 ans, d'il y a 20 ans. Et le punch, c'est le gouvernement fédéral promet d'étudier le rapport du commissariat aux langues officielles.
Ça me rassure. Donc, les fonctionnaires francophones, presque la moitié, veulent pas parler français parce qu'ils se disent ils vont pas me comprendre, fait que je vais pratiquer mon anglais. Puis 40% des anglophones, les fonctionnaires anglophones disent ben je pratique pas assez mon français, fait qu'on va se parler en anglais.
C'est ça un pays avec deux langues officielles.
C'est fantastique. Patrick Derry, merci. On se reparle demain. Salut.
Bonne fin de journée.